À la une, la ministre des Outre-mer débute demain sa visite en Nouvelle-Calédonie. Naïma Moutchou doit rester de lundi à vendredi sur le territoire, notamment pour multiplier les rencontres sur le terrain. Les 150 ans de la construction de l'église Saint-Austremoine de Puebo, de nombreuses paroisses ont participé aux festivités tout au long du week-end. Des artisans calédoniens présents au salon Made in France en métropole, un événement qui attire en moyenne près de 100 000 visiteurs chaque année. L'actualité nationale, à l'approche du 10e anniversaire des attentats du 13 novembre à Paris, Salah Abdeslam, le dernier membre du commando terroriste incarcéré, est soupçonné d'avoir poursuivi des activités illicites depuis sa cellule. Le sport, les footballeurs de la sélection calédonienne des moins de 17 ans ont une chance de passer les phases de groupe du mondial au Qatar. Ils affronteront l'équipe du Maroc ce soir. Les championnats de Calédonie de volley, victoire en finale chez les dames et chez les messieurs de l'AS Paital, le club fait coup double. Et sur la scène internationale, la défaite du 15 de France de rugby, boxé par les Sud-Africains 32 à 17 pour le premier test match de la tournée de novembre. Bonsoir et soyez les bienvenus dans Info Weekend pour tout savoir de l'actualité en Calédonie, en métropole et dans le monde. À la une de l'actualité, la visite en Nouvelle-Calédonie de la ministre des Outre-mer, Naïma Moutchou. Une visite qui débutera officiellement demain matin dès 9h30, place Bir Hakeim, où les honneurs militaires lui seront rendus, Léo Fichot.
Oui, Naïma Moutchou se rendra ensuite au Sénat coutumier et en fin de matinée, demain, toujours à Nouméa, la ministre des Outre-mer assistera place de la Paix à une cérémonie en hommage à Jacques Lafleur et Jean-Marie Tjibaou. Demain après-midi, la ministre s'entretiendra successivement avec Alcide Ponga, président du gouvernement, Velma Falayo, présidente du Congrès, Sonia Baquès, présidente de la province sud, et enfin Sonia Lagarde, maire de Nouméa. Des entretiens avant une rencontre avec l'ensemble des acteurs économiques du territoire. Mardi, Naïma Moutchou assistera à la cérémonie commémorative du 11 novembre. Ce sera à Place Bir Hakeim. Ensuite, la ministre des Outre-mer rencontrera à la résidence du Haut-Commissariat les différents partis politiques pour une journée de bilatérale. Mercredi matin, la ministre des Outre-mer se rendra en province nord où elle visitera une exploitation agricole à Pointe-Bout avant de se rendre à Koné pour échanger avec des jeunes du RSMA, le régiment du service militaire adapté. L'après-midi de retour dans le sud, Naïma Moutchou échangera avec des gendarmes mobilisés en Nouvelle-Calédonie autour de Saint-Louis avant de visiter le parcours du cœur au Mont-d'Or Sud et de rencontrer les membres de l'association Citoyens Mont-Dorien. Jeudi, après avoir visité le camp Est en tout début de journée, la ministre se rendra à Lifou où elle s'entretiendra avec Mathias Vaneux et les maires des loyautés. Naïma Moutchou rencontrera ensuite des membres d'associations de femmes, des acteurs du tourisme en Nouvelle-Calédonie. Elle visitera enfin la Maison de la Vanille. Vendredi, pour le dernier jour de sa visite sur le territoire, Naïma Moutchou se rendra au lycée Pétro à Titi avant de rencontrer les maires de Nouvelle-Calédonie à la résidence du Haut-Commissariat. Enfin, elle échangera avec les associations d'habitants du quartier de Tindu.
Une visite de la ministre des Outre-mer qui sera bien évidemment à suivre sur RRB tout au long de la semaine prochaine. Naïma Moutchou, que nous recevrons par ailleurs dans nos studios vendredi. La ministre des Outre-mer sera notre invitée du matin. Le Palika réunit son 50e congrès à Bouraille sur le site de Téné. Parmi les points à l'ordre du jour, le positionnement du Palika vis-à-vis du FLNKS, mais aussi la préparation des prochaines échéances, l'organisation du Palika et du mouvement indépendantiste en faveur de l'accord de Bougival. Les travaux de ce congrès du Palika se déroulent depuis vendredi, donc à Bouraille. Pour le moment, rien n'a filtré des discussions internes, pas de communication pour l'heure. Alors que les travaux se poursuivent encore en ce début de soirée, ont indiqué les responsable du Palika. À la fin de ce journal, ne manquez pas la rediffusion du magazine Transparence. C'est le député de la première circonscription, Nicolas Metzdorf, qui était vendredi midi l'invité d'Elisabeth Noir. Une émission à retrouver également sur notre site internet www.rrb.nc.
RRB, il est 17h49.
Nous avons évoqué la visite de la ministre des Outre-mer qui va donc dominer les prochains jours. C'est l'heure de voir de quoi le reste de la semaine qui vient sera faite, Léo Fichot.
Et cette semaine qui commence par un pont, mardi 11 novembre, est en effet un jour férié pour commémorer la signature de l'armistice qui mit fin à la guerre de 14-18. C'est aussi le 11 novembre que le phare Amédée sera illuminé et il le restera pendant 5 jours jusqu'à samedi prochain. Initiative pour commémorer le 160e anniversaire de l'allumage du phare. Mercredi, bonne nouvelle pour les demi-pensionnaires des établissements catholiques et leurs parents. Après plus d'une semaine de fermeture, les cantines fonctionneront à nouveau normalement. Les élus du Congrès se retrouveront en commission permanente pour une séance destinée à un ajustement des postes dans les commissions et organismes extérieurs rendus nécessaires par le départ au gouvernement de Naya-Wateu. Jeudi soir, le cluster NCT-Anaï organise sa soirée de remise des prix des trophées de l'export. Le week-end prochain sera enfin marqué par le congrès de l'UPM à Ponérihouin à partir de vendredi et jusqu'à dimanche. En fin de rendez-vous sport seront aussi à suivre du football. D'abord, samedi après-midi au stade Numa Dele, l'AS Magenta jouera son 7e tour de Coupe de France face à Mulhouse, club de National 3. Ce sera aussi dimanche prochain la Blues Cup Race. 300 participants en kitesurf, wingfoil, va ou encore croiseurs sont attendus pour cette course entre le Faramédé et l'Ansvata. Une 15e édition dont nous parlerons demain midi dans le magazine des sports du lundi.
Et un autre rendez-vous d'antenne demain matin, c'est Naya-Wateu qui sera notre invitée à 7h30. Nouvelle membre du gouvernement après le départ de Thierry Santa. Elle reviendra sur sa nomination, l'occasion aussi de dresser avec elle le bilan du Nouméa Women's Forum dont elle est à l'origine et qui s'est refermé vendredi dernier. En bref, cette intervention de la gendarmerie ce matin, un parapentiste en difficulté a dû atterrir hier vers 13h en zone montagneuse au nord de Dimbéa, vers le Mont Zoumac. Il a été repéré hier soir, mais a dû dormir sur place durant la nuit, sur un sentier, car il disposait de l'équipement nécessaire pour passer la nuit en sécurité. Il a été récupéré finalement ce matin par moyen aérien. Il était sain et sauf, a été tout de même conduit au Medipôle pour observation. Depuis vendredi, les paroissiens de l'église Saint-Austremoine à Puebo célébraient les 150 ans de la construction de l'édifice. De nombreuses animations étaient programmées. C'est une belle réussite selon Ferdinand Dalap, le président du comité des 150 ans pour la paroisse Saint-Austremoine de Puebo.
Les festivités ont commencé depuis vendredi. Plutôt le temps fort, avec les écoles. Un cru, la culture, la connaissance et tout, avec cette fête de notre église. Hier, on avait fait une partie culturelle hier, et aujourd'hui, c'est une partie religieuse, avec la bénédiction d'un tabernacle qui nous ont été offerts par la paroisse de Tocheuil. Il y avait une messe, et on avait eu toutes les paroisses voisinantes. On a Dienguen, on a Touo, on a la paroisse de Thié, la paroisse de Mbondé. Il y était un petit peu de tout du territoire qui sont joints à notre invitation pour la fête du 150e. Pour ma part, je suis très content. Que ça a été une très belle réussite. On n'espérait pas tant de monde qu'aujourd'hui. C'est dans le corps de l'esprit de l'âme que voilà. Avec la positivité des choses, on a pu faire un truc extraordinaire. De l'émotion que j'ai aujourd'hui, c'est une grande joie. Puis c'est une grande réussite.
Ferdinand Dalap, président du comité des 150 ans pour la paroisse Saint-Austremoine de Puebo. Une grande messe et un repas se déroulaient aujourd'hui pour clôturer l'événement. Et puis en bref, un beau succès hier soir pour l'édition 2025 de la Table de l'Amitié. L'hippodrome Henri Maillard de Nouméa a accueilli plus de 800 personnes. Un événement organisé dans le cadre du Téléthon 2025.
Radio Rythme Bleu. Les bonnes fréquences. À Nouméa, c'est le 100.4.
L'actualité calédonienne à Paris, avec le salon Made in France qui a ouvert ses portes jeudi matin, porte de Versailles. Parmi le millier d'exposants présents, deux Calédoniens sélectionnés cette année par la Chambre des métiers de l'artisanat de Nouvelle-Calédonie. Le sculpteur Mélem Tiaou et la créatrice de bijoux Dominique Subilo. Dominique Subilo crée des colliers, des bracelets et des boucles d'oreilles à partir de perles en verre recyclé. C'est la première fois qu'elle vient présenter ses œuvres à Paris.
Moi, mes bijoux font le tour du monde. Mes bijoux concernent la terre entière. C'est aussi bien l'italien, le français, l'anglais, l'australien, tout le monde. C'est aussi les croisiéristes, et surtout les croisiéristes qui viennent en Nouvelle-Calédonie, puisque je travaille à la gare maritime, donc c'est forcément les croisiéristes. Mais après, moi, je me déplace aussi. Donc je crée aussi des marchés. Ça peut être en France, ça peut être en Australie. Et c'est très, très bien perçu.
Le sculpteur Mélem Tiaou a déjà participé au Festival du Pacifique, à Tahiti, aux îles Salomon, ainsi qu'à Nouméa, avec ses créations, notamment à base de bois de Gaillac.
Moi, je m'inspire de la culture mélanésienne, la sculpture kanak, mais aussi de la faune et la flore calédonienne. J'ai des sculptures, donc, par exemple le poteau kanak, des poteaux qui font à peu près 2 mètres, et après, dessus, ils vont mettre les motifs qu'ils ont rencontrés, c'est-à-dire, par exemple, s'ils ont rencontré une baleine ou une tortue, donc ils vont me donner énumérer toutes les choses qu'ils ont aimées. Et en fait, c'est comme si moi je vais retraduire leur voyage à travers la sculpture en la sculptant.
Voilà pour les témoignages de ces deux Calédoniens au salon Made in France à Paris. Près de 100 000 visiteurs font en moyenne le déplacement dans ce salon chaque année. Il est 17h passé de 55 minutes. L'actualité nationale est dans le monde. C'est juste après une courte pause publicitaire et la menace terroriste qui plane toujours sur la métropole. À tout de suite.
Entreprise, cabinet juridique, collectivité, vous souhaitez être lu, être vu, confiez vos annonces légales au site internet rrb.nc. Contact annonceslegales@rrb.nc ou au 25 46 46.
Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 4020. Tous les 1500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas à pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
La suite de votre journal avec Michael Juneski.
La tuerie du Bataclan, l'attaque suicide aux abords du Stade de France, les fusillades sur le restaurant Le Petit Cambodge et le bistrot Le Carillon. Les Parisiens commémoreront dans quelques jours les attaques terroristes qui avaient fait 130 victimes ainsi que des centaines de blessés le 13 novembre 2015 dans la capitale. La mairie de Paris invite depuis ce week-end de la population à faire un geste commémoratif sur les lieux de symbole des recueillements. À l'approche de cette date anniversaire, le ministre de l'Intérieur Laurent Nunez appelle ses services au renforcement de la vigilance, notamment aux abords des salles de concert et des manifestations festives de grande ampleur. Le locataire de la place Beauvau rappelle que la menace terroriste demeure à un niveau élevé sur notre territoire. Et dans le même temps, l'un des membres du commando terroriste de novembre 2015, Salah Abdeslam, incarcéré et condamné à la prison à perpétuité incompressible, a été placé en garde à vue, tout comme son ex-compagne. Des connexions illégales ont été découvertes sur son ordinateur. Le point avec William Molinier d'Europe 1.
Ordinateur qu'il avait lui-même acheté, il était autorisé par l'administration pénitentiaire à en avoir un depuis novembre 2024. Salah Abdeslam n'avait en revanche pas accès à Internet et cet ordinateur faisait l'objet de fouilles régulières. C'est d'ailleurs au cours de l'une d'entre elles que des données de connexion suspectes ont été révélées. La justice le soupçonne d'y avoir connecté une clé USB, elle, bien illicite, et dans laquelle pouvaient se trouver des contenus djihadistes. Ce support informatique a été recherché par l'administration pénitentiaire, mais rien n'a été retrouvé. Comment cette clé USB est-elle entrée dans la prison de Vendin-le-Vieil jusqu'à sa cellule? Les enquêteurs soupçonnent sa jeune compagne de lui avoir fourni ses textes de propagande. Une jeune femme, originaire du Tarn, est connue pour être proche de la mouvance islamiste radicale. Tous deux ont entamé une correspondance épistolaire en 2018 avant de se marier par téléphone en 2022 et qu'elle n'obtienne l'année dernière un permis de visite aux détenus le plus sensible de France.
William Molinier pour Europe 1. Et nous avons appris par ailleurs aujourd'hui que trois femmes d'une vingtaine d'années ont été écrouées au mois d'octobre dernier à Paris. Elles sont soupçonnées d'avoir préparé un attentat djihadiste. Cette semaine, l'invité du grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos sera François-Olivier Gisbert, journaliste et écrivain. Une émission que vous retrouverez sur l'antenne d'RRB demain soir. Ce sera juste après Info Soir, votre grand journal de 17h45. À l'international, c'est demain soir que doit s'ouvrir la COP30 au Brésil, conférence internationale organisée par l'ONU qui se déroulera jusqu'au 21 novembre sur le thème de l'Amazonie. Le président français Emmanuel Macron sera sur place, il est arrivé au Brésil. Toujours en bref, un super typhon s'approche des Philippines où près d'1 million de personnes ont été évacuées. L'arrivée imminente du phénomène dont le diamètre couvre la quasi-intégralité du pays fait craindre des inondations et de nouveaux drames. Les secours peinent déjà à intervenir dans certaines zones après la tempête précédente qui a fait plus de 200 morts. L'actualité dans la région à présent est la princesse Anne qui est arrivée hier en Australie où elle va passer les 3 prochains jours. Sa dernière visite officielle remonte à 2022 lorsqu'elle a inauguré la Royal Easter Show de Sydney. La correspondance de Jean-Pierre Zajac.
Aujourd'hui âgée de 75 ans, la princesse Anne est accompagnée de son époux, le vice-amiral Timothy Lawrence. Le couple a été invité par les forces armées australiennes à l'occasion du centenaire du corps australien des transmissions, dont la princesse Anne est le colonel en chef. Un dépôt de gerbes est prévu aujourd'hui au cimetière militaire Rockwood de Sydney, que la princesse Anne visitera en sa qualité de présidente de la commission des sépultures de guerre du Commonwealth. La journée de demain sera consacrée à divers événements liés au centenaire du corps des transmissions. Son voyage s'achèvera mardi 11 novembre à Canberra par un dépôt de gerbes au mémorial militaire Anzac. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Il est 18h, vous êtes bien sur RRB. Une page de publicité avant de voir tout le sport et les footballeurs de la sélection des moins de 17 ans qui ont l'occasion de tenter de passer les phases de groupe de leur Coupe du Monde. On voit tout ça dans un instant.
Pour vous, comme pour nous, il n'y a pas de jour sans l'OPT sur Radio Rythme Bleu. Rendez-vous sur notre site www.opt.nc pour découvrir l'ensemble de nos offres. L'OPT, le monde à portée de main.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
Vous êtes sur RRB, plus la peine de zapper.
La fin de votre journal, le sport avec Mickaël Juneski.
Le sport avec du football. C'est la nuit prochaine pour nous que la sélection des moins de 17 ans disputera son dernier match de poule du mondial au Qatar, Léo Fichou.
Et après avoir accroché le nul 0-0 contre le Japon, les Kagou peuvent toujours se qualifier pour les phases finales. Malgré la fatigue accumulée depuis leur départ de la Calédonie, ils sont plus que jamais motivés à décrocher leur billet pour les 32e de finale. On écoute le sélectionneur Léo Lopez.
On va aborder ce match comme l'équipe qui a rien à perdre et au contraire tout à gagner, car on est les tout petits face à un des gros favoris de cette compétition, qui aura beaucoup de pression sur ses épaules par rapport à leurs deux contre-performances sur leurs deux premiers matchs de poule. Et ils auront à cœur de se racheter, d'essayer de l'emporter contre nous en marquant un maximum de buts pour espérer se qualifier pour le tour suivant en finissant dans les meilleurs troisièmes. On va essayer d'être de nouveau une équipe difficile à manœuvrer. On va se concentrer, nous, sur nous-mêmes et essayer justement de jouer sur cet aspect psychologique où les jeunes joueurs du Maroc vont avoir beaucoup de pression sur leurs épaules. Nous, on va jouer avec la même sérénité, la même organisation et on va essayer de justement profiter de leur état de stress et certainement de fébrilité pour les embêter et pour aller se procurer des occasions. Donc on va essayer de tout faire pour essayer de continuer notre aventure ici à Doha.
Nouvelle-Calédonie-Maroc, dernier match des poules de la Coupe du Monde des moins de 17 ans, c'est à suivre dès minuit 30 pour nous sur le site FIFA+.
Un mot de rallye puisque deux Calédoniens étaient ce week-end en Nouvelle-Zélande, Eugène Grenier et Philippe Delrieux qui participaient au rallye de Whangarei. Ils ont terminé à la 13e place. Sur le territoire, à présent, on parle de volley avec les finales du championnat de Calédonie qui se jouaient cet après-midi dans une salle Jacques Wawanabou de Nouméa, comble Léo Fichou.
Tous les supporters présents sont venus habillés aux couleurs de leur équipe, en vert pour Païta, en jaune pour Issamous ou encore en rouge pour Ningoné. Même les supporters des équipes éliminées sont restés pour assister au final. L'ambiance est au rendez-vous depuis vendredi, début des festivités puisque la Ligue calédonienne fête ce week-end ses 60 ans. Une fête réussie avant même les finales, nous a dit le président Moïse Kalemou.
Oui, c'est un événement très très réussi hein, depuis vendredi. Les finales territoriales, les 60 ans de la Ligue, les ailes du volleyball, la pose de la plaque commémorative de Keke Wananabu. Fantastique. Il y a du monde, il y a du spectacle. Voilà, il faut toujours un gagnant et un perdant. Voilà, c'est que du positif pour l'avenir du volleyball.
Et comme le disait le président de la Ligue, Moïse Kalemou, il faut un gagnant chez les dames comme chez les hommes. C'est l'AS Païta qui l'emporte et qui réalise le doublé. Après un match très disputé face au Ningoné Sport, les filles s'imposent 3-7-2. Une victoire qui récompense la cohésion d'équipe et la jeunesse, nous a dit la capitaine de l'ASP, Harmonie Connu.
On n'était pas attendus. Donc cette victoire, elle a un goût particulier parce qu'on a été la chercher avec les tripes, le cœur et on a été chercher l'énergie je ne sais où. Parce que quand même 5-7, on n'est pas beaucoup. Donc on a eu beaucoup de matchs depuis vendredi dans les pattes. Mais une grande satisfaction. C'est unique, c'est des moments uniques et qui marquent. Donc je suis contente de l'avoir vécu avec elle.
Du côté des hommes, la finale opposait donc l'AS Païta à Issamous. Et les Verts et Noirs ont, comme les filles, remporté leur finale. Une victoire 3-7-1 face aux joueurs de l'IFU.
Allez, encore des résultats du week-end de Léo.
En futsal d'abord, l'AS PTT croisera le fer avec le FC Ferrand en finale de la Super League. Les demi-finales se sont jouées ce week-end. Et la finale est prévue le dimanche 7 décembre à la salle Jacques Wawanabu de Nouméa. De son côté, Challenge Organisation a organisé ce matin un trail à Pointe-d'Imy en immersion à la tribu de Saint-Thomas sur la distance Rennes. Le trail de 20 km, c'est Gabrielle Espada qui s'est imposée. La première femme, c'est Marion Huet qui l'emporte en 2h30, alors que les garçons l'auront terminé en 1h53. En VTT cross-country cette fois, le club de l'Enfer du Nord accueillait la dernière étape des championnats de Nouvelle-Calédonie. Chez les hommes, victoire de Jonathan Berger. Chez les dames, victoire de Jessica Bélanguet. Sur le relais 6h par équipe, c'est le CS Bouraille qui s'est imposé. Et puis un mot de pelote basque pour signaler que Stéphane Pareja et Lucas Grandpierre ont décroché le titre de champion de Nouvelle-Calédonie. Chez les dames, le titre revient à Chantal Larondo et Caroline Xewe.
Du karting avec la dernière manche du championnat de Calédonie ce dimanche, surtout l'occasion de revoir trois jeunes prodiges, Ilan Fondou, Raphaël Gilles et Lucas Padovez-Robo, de retour sur le circuit de Nakutakouin.
Je m'appelle Ilan, j'ai 14 ans. Quand je fais cette course, ce qui me met bien ou quoi, c'est parce qu'en gros, je suis avec mes potes, on est plein sur la piste. Il y a tout le monde qui se met à fond, il y a personne qui se rabaisse entre eux. Ça a été une très bonne année, peut-être pas au niveau de résultats, mais au niveau d'expérience. J'ai fait à peu près 15 courses en France. Mon expérience a évolué à chaque course. J'ai hâte de le refaire. En tout cas, pour l'année prochaine, je vais faire les championnats australiens. Et après ça, je vais partir en France. Le niveau est très élevé. C'est ça qui m'a fait évoluer.
Je m'appelle Raphaël Gilles et j'ai 11 ans. Ouais, c'est amusant de se battre avec les copains. Je suis parti en France et j'ai fait championnat d'Australie. Le niveau est un peu plus élevé. J'étais dans une toute petite catégorie en Australie et en France, j'étais en junior. Bah, je suis fière et je suis content vu que j'ai fait des bons résultats. Je vais faire le championnat de France karting junior et peut-être passer en F4.
Je m'appelle Luca Padovez-Robo et j'ai 15 ans. Les conditions, elles sont vraiment très chaudes, très humides et très dures. Avec la combinaison, tu peux avoir très chaud et ça fait toujours du bien de retourner ici. Il y a 3 semaines, j'étais parti à Canberra pendant les vacances pour la Coupe de Canberra où je suis arrivé 7e. 2 semaines avant, j'étais au championnat d'État du New South Wales. J'ai pas fini la finale parce qu'on m'a sorti. Un gros accident. Et sinon, je repars la semaine prochaine pour une course à Sydney. Le niveau en Australie est beaucoup plus élevé, mais il y a quand même du niveau ici. C'est trop bien de retrouver tous les amis et tout ça.
Et côté résultat, on signalera la victoire justement de Luca Padovez-Robo en junior. Il a décroché le titre de champion de Calédonie, tout comme Andy De Montes en minime cadet. Thibaut Marie s'est imposé en DD2, une catégorie où Alexandre Saint-Marc a décroché le titre de champion 2025. Les interclubs de natation, compétition qui se déroulait tout le week-end dans les bassins du Cercle des nageurs calédoniens. 3 clubs représentés, l'Olympique de Nouméa, le CNC et Dimbéa Natation. Stéphane Tichon, conseiller technique pour la Ligue calédonienne de natation.
Les enjeux là de la compétition, c'est de figurer au classement national par rapport au nombre d'équipes qui marquent des points à chaque fois pour le club. Ça permet de faire nager toutes les catégories, hein, puisque le slogan c'est « toute la natation sur le pont ». Donc dans l'idée, c'est effectivement une belle fête pour les clubs. Il y a quand même une belle mobilisation, avec tous ces nageurs présents tout le long du week-end.
Et près de 120 nageurs prenaient part à cette compétition au CNC. Les quais 3-3 depuis hier et jusqu'à mardi prochain. La commission 3 contre 3 de la Ligue de Nouvelle-Calédonie de basket, en partenariat avec Vibes Nation Event, organise un tournoi officiel de basket 3 contre 3. Donc évidemment, ça se passe sur les quais Ferry, un lieu insolite. De nombreux joueurs sont rassemblés, des plus jeunes aux plus expérimentés.
On a gagné les 3 matchs qu'on a joués ce matin. Là, c'est la grande pause pour nous, en tout cas notre équipe. C'est juste le soleil, il assomme vraiment. J'aime bien l'ambiance, la musique, les équipes, et puis on s'entend tous, donc c'est cool quoi.
On est une équipe du Nord, on est venu représenter un peu le Nord. Il fait très chaud, les conditions sont parfaites pour un 3-3, mais le soleil est au rendez-vous, donc c'est assez difficile. Et nous, pour le moment, on n'est que 3, donc pas de changement. c'est difficile, mais on est là.
Déjà, le tournoi, il est top parce que du coup, il est beaucoup plus ouvert cette année. Déjà, c'est sur 3 jours. Écoute, c'est super parce qu'il fait super beau. Bon, super dans le sens où il fait beau et on peut jouer, mais c'est vrai que sur le terrain, pendant les matchs, c'est assez compliqué. Ça va, franchement, au niveau organisation aussi, ça se passe super bien. Et le fait qu'il y ait des jeunes aussi, c'est top. Et pour le basket féminin aussi, ça a permis de voir un peu le niveau et d'avoir plus de féminines sur le terrain.
Cet événement est gratuit, ouvert à tous, avec également retrouvé sur place de l'art, des stands, une ambiance festive ainsi que les cultures urbaines mises à l'honneur. Ça se passe donc au Quai Ferry jusqu'à mardi prochain.
Vous écoutez Radio Rythme Bleu. Au Mont d'Or, c'est le 100.4.
Le sport sur la scène nationale et internationale, on parle rugby et le 15 de France qui a été puni aujourd'hui par les Springboks, Léo Fichot.
Les Bleus y ont cru, ils menaient même à la pause 14-13 avant de s'incliner lourdement 32-17 contre l'Afrique du Sud, les doubles champions du monde en titre. On retiendra seulement les 2 essais de Damien Penaud qui devient le meilleur scoreur de l'équipe de France. Malgré ces 2 essais, les Bleus qui s'inclinent, on écoute le sélectionneur Fabien Galthié.
On a joué contre, je pense, peut-être une des meilleures équipes d'Afrique du Sud et sûrement plus. Même en grande difficulté, ils ont réussi à nous empêcher de scorer. Donc ils nous ont gardé au score, enfin ils nous ont gardé dans la partie. Et après, ils ont su, comme ils le font très bien, hein, reprendre la main sur le jeu de manière très, très puissante, très habile. Et la fin de match, elle est pour eux.
Les Bleus auront l'occasion de se rattraper dès le week-end prochain contre les Fidji, défait par l'Angleterre 38-18, c'était ce matin. Puis contre l'Australie dans 2 semaines, les Wallabies qui se sont inclinés 26-19, défaite surprise contre l'Italie.
Du football sur la scène nationale, la fin de la 12e journée de Ligue 1. L'objectif pour le Paris Saint-Germain, récupérer la première place du classement.
Et oui, puisque les Parisiens sont désormais 3e, provisoirement bien évidemment, après les victoires de l'OM 3-0 sur Brest et de Lens 4-1 sur Monaco. Le PSG qui doit s'imposer face à Lyon demain matin pour récupérer la première place du classement. Au LPSG, ce sera à suivre dès 6h45, heure de Nouméa. Avant ça, à 1h, Lorient accueillera Toulouse, puis 3 rencontres se joueront en simultané à 3h15, Angers-Auxerre, Metz-Nice et Strasbourg-Lille.
Place au sport mécanique avec la Formule 1.
Vos stations Shell et Pacifique, partenaires des pages spéciales Grand Prix de Formule 1 sur Radio Rythme Bleu.
Les pilotes ont rendez-vous ce week-end pour le Grand Prix du Brésil. Après la Sprint Race remportée par Lando Norris, les qualifications ont redistribué les cartes.
Alors, le pilote britannique McLaren a de nouveau décroché la pole devant Kimi Antonelli sur Mercedes. Jusque-là, pas de changement. C'est derrière que ça bouge. Charles Leclerc sur Ferrari sera sur la 2e ligne, en 3e position avec Oscar Piastri à ses côtés. Le pilote McLaren qui n'avait pas terminé la Sprint Race, victime d'un crash dès le 6e tour. Isaac Hadjar, le français, lui, partira de la 5e position sur la grille de départ, Pierre Gasly 9e, Esteban Ocon 17e, juste derrière, et c'est une surprise, Max Verstappen 16e. Le Grand Prix du Brésil aura lieu à 4h pour nous la nuit prochaine.
C'était votre page spéciale Grand Prix de Formule 1 parrainée par Shell et Pacifique. Shell, à nouveau partenaire innovation de la Scuderia 2025. Sélectionnez le meilleur pour votre véhicule.
Allez, encore un mot de sport mécanique avec également à suivre ce week-end le MotoGP.
Les pilotes moto sont au Portugal sur le circuit d'Algarve. Le départ du Grand Prix sera donné à minuit la nuit prochaine. Sur la première ligne, on retrouvera Marco Bezzecchi, Pedro Acosta et le français Fabio Quartararo, 3e donc des qualifications. Sur la 2e ligne, Juan Zarco sera derrière Alex Marquez et Pecco Bagnaia. Le Grand Prix, je le disais, s'élancera à minuit.
C'est bien noté Léo Fichou, merci beaucoup pour toutes ces informations. Il est 18h passé de 13 minutes, on termine ce journal avec la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Et les couleurs du ciel, c'est avec vous Pierre, bonsoir.
Bonsoir, cette nuit des nuages bas resteront présents le long de la côte est ainsi que de l'île des Pins à Lifou avec quelques faibles averses possibles. Ailleurs, la nuit sera calme, parfois voilée mais globalement dégagée. Le vent d'est à nord-est soufflera entre 5 et 10 nœuds sur la pointe sud et les Loyautés, tandis que sur la pointe nord, il viendra du sud-est autour de 5 à 10 nœuds également. Partout ailleurs, le vent restera quasi nul. Les températures minimales s'échelonneront entre 20 et 23 degrés et des descendront localement entre 17 et 19 degrés à Lifou, Marais et dans l'intérieur de la Grande Terre. Demain matin, le sud-est, l'île des Pins et le sud des Loyautés connaîtront un ciel passagèrement nuageux, ponctué de quelques averses. Sur le reste du territoire, le soleil dominera largement. Sur la côte est, le vent sera d'abord faible et variable avant de s'orienter au sud-ouest entre 5 et 10 nœuds. Ailleurs, il restera léger de secteur nord-est au sud-est sur la pointe nord.
Merci beaucoup Pierre, c'est la fin de ce journal.